اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل على
Donc lui dit, le droit de tes yeux, c'est que tu les baisses devant ce qui est interdit. Allez, tu baisses le regard. Vas-y.
Ce qui t'est interdit est que tu ne laisses pas traîner ton regard, sauf pour prendre une leçon, que ce soit en voyant ou en apprenant quelque chose. Car la vue est la porte de la réflexion et du savoir.
Comme l'oreille était porte de réflexion et savoir, l'œil aussi c'est pareil quand tu regardes, c'est là que tu en déduis et là que tu observes. Donc, baisse le regard dans les choses haram, sauf dans les cas où tu apprends quelque chose.
Dieu croyant de baisser le regard devant les étrangers et de
garder. Dis aux croyants, le croyant il doit baisser le regard. Il y en a nous, les croyants, nous sommes les croyants, Inch'Allah. Dès qu'il y a des choses haram, nous devons baisser le regard. Mais bon, ça c'est difficile à pratiquer ça.
Et de garder leur sexe. Leur
et de garder leur sexe, c'est-à-dire qu'ils restent chastes. Allah il sait que nous, ce que nous avons comme. Comment nous avons été créés, il sait comment nous nous comportons. Donc, dès que nous voyons cette fille étrangère, nous avons des idées derrière la tête, et ces idées-là, ça donne du genre, comment le mec qui a tué la fille de 13 ans, le Landais par exemple, s'il n'aurait pas vu cette fille, il n'aurait pas fait ça. C'est parce qu'il a vu, après il a eu des idées, ça, cette idée s'est finie par l'assassinat et le viol par exemple. Il a cargué. Donc faites attention parce que Dieu il est connaisseur de ce que nous avons au fond. Vas-y.
Et Dieu croyait de baisser le regard.
La même chose, c'est vice-versa, parce que nous avons l'impression que c'est seulement les hommes qui ne doivent pas regarder, mais les femmes aussi, c'est pareil, ils ne doivent pas regarder les étrangers.
Et de garder leur sexe, leur chasteté.
Vas-y.
Et de montrer de leurs atouts ce qui en
paraît. Dieu dit qu'elle ne doit pas s'exposer sauf ce qui en paraît, c'est-à-dire qu'est-ce qui en paraît ? Le visage et le domaine. Il n'y a que ça qu'elle doit exposer, mais le reste, elle doit couvrir, c'est l'ordre divin. Vas-y.
Qu'elle rabatte leur voile sur leur poitrine.
Et à tel point, Dieu l'insiste qu'elle rabatte aussi leur voile devant leur. C'est-à-dire, elle doit mettre aussi le voile qui adore, finalement. Vas-y. Non seulement elle ne doit pas exposer les maquillages, tout ça, tout ce qui est caché, les cheveux, tout ça, mais après, elle doit encore rabattre l'autre voile qui est la deuxième voile, finalement. Il y a une double protection.
Vas-y. Et qu'elle me montre leur à tout qu'à leur mari.
Vas-y, il y en a devant le mari, par contre, il doit faire l'inverse, il doit montrer tout ce qu'elle a.
Celui qui a rempli ses yeux du regard illicite, Dieu remplira ses yeux de feu le jour du jugement.
C'est bon, conséquence, si quelqu'un regarde, qu'est-ce qui va se passer là? Il regarde les choses haram, là, Dieu remplira ses yeux de feu le jour du jugement, sauf s'il se remet. S'il a fait en bas,
regardez bien.
Voilà, mais regarde, bref, un premier regard, c'est pas un problème, mais il ne doit pas insister. Mais si le mec, il a regardé le haram, ses yeux seront remplis de feu. Et ça va être comment les yeux remplis de feu, ça va être terrible. Parce que c'est à côté du cerveau, là on sent tout de suite la douleur.
Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches d'Iblis.
Vous voyez, Iblis, lui, il a des fléchettes ou flèches pour tirer. Et parmi ces flèches, c'est quoi? C'est les regards.
Celui qui a laissé le regard illicite par peur de Dieu, Dieu va lui donner une foi dont il va sentir sa douceur dans son cœur.
Vous voyez, si quelqu'un il baisse le regard pour Dieu, parce que Dieu il a dit je ne dois pas regarder l'étrangère. Si je baisse le regard en échange, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va me faire naître une sorte de douceur dans mon cœur. Il y en a cette sensation, cette lazat. Il y en a, je vais avoir une sorte de. Comment on appelle ça là, bien fait, une bonne sensation. Bien-être, lazat. Il y en a le nirwana quelque part. Mais expérimentez ça, vous allez voir, peut-être vous allez sentir ça aussi, si vous avez respecté les conditions. Vas-y.
Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches d'Iblis. Combien de regards sont devenus source de longs regrets?
Vous voyez, il y en a le regard, c'est flèche d'Iblis. Et à cause de ce regard, combien de gens ils ont détruit leur avenir à cause de ce regard?
Celui qui lance un regard vers la maison de son voisin et qui a vu l'intimité d'un homme ou les cheveux d'une femme ou autre partie de son corps, il est du droit de Dieu de le mettre en enfer avec les hypocrites.
Vous voyez, si quelqu'un il regarde de loin, par exemple, dans la maison de son voisin, qu'est-ce qui se passe là? Il voit le mec tout nu, il sait que le mec, parce qu'il est dans sa maison, il peut être nu. Mais c'est à moi de ne pas regarder parce que lui, il est chez lui, il peut être nu. Mais moi, avec mon drone, je ne sais pas quoi, là, je monte en haut, j'escalade, c'est pas le cocotier, je commence à regarder partout, vous voyez.
Mais
non, là. Pareil, la femme, elle est pas. Est-ce que la femme est obligée de mettre hijab dans sa maison?
Non.
Mais par contre, si moi je regarde de loin ces cheveux-là, qu'est-ce qui va se passer? Il est du devoir de Dieu de me mettre avec les hypocrites. Et si Dieu, il est obligatoire pour Dieu quelque part. Yannick, il va me mettre avec les hypocrites. Et si je suis avec les hypocrites, c'est l'enfer. Vas-y.
Celui dont se regard tourne vers une femme étrangère et qui détourne son regard vers le ciel, il baisse son regard, Dieu va lui faire marier avec des folies.
Ouais. Si je regarde une femme par exemple étrangère, je tombe avec elle, comme ça, le premier regard, et moi qu'est-ce que je fais? Je baisse mon regard ou bien je regarde vers le ciel. En échange, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va me donner un cadeau au Roulin. Il y a de Roulin pour trouver la plus jolie femme du monde. Donc cette femme, combien on doit payer pour avoir cette femme-là? Je pense que même 3000 milliards de dollars, ça ne suffira pas. Mais Dieu donne juste gratuitement un cadeau comme ça parce que j'ai respecté les lois divines. Vous voyez, c'est gratuit. Qu'est-ce qui est difficile finalement? Rentrer au paradis ou rentrer en enfer? Rentrer au paradis, c'est facile. Parce que je fais juste comme ça, je suis au paradis. Je suis avec mon problème.
Écoutons,
ça c'est important aussi. Répète.
La couleur de Dieu, c'est grand. Femme mariée qui regarde un autre que son mari.
Vous voyez, la colère de Dieu s'assoit sur cette femme qui est mariée et qui regarde un homme autre que son mari. Parce que nous regardons toujours le côté homme, mais les femmes aussi sont concernées. Non. Combien de femmes mariées regardent avec envie des hommes comme ça, par exemple, alors qu'il est marié?
Concernant quelqu'un qui regarde le postérieur d'une femme qui passe devant.
Ça, c'est important, ça nous concerne. Regardez, lisez bien ce hadith-là. Répète. Abu Basir, c'est un des compagnons d'Imam Sadiq al-Islam. Salut alayhi.
Concernant quelqu'un qui regarde le postérieur d'une femme.
Oui, quelqu'un qui regarde derrière le postérieur d'une femme. Donc, quelqu'un qui regarde ça, qu'est-ce qui se passe là? En fait, Abu Basir a demandé si c'est permis ou si c'est pas permis. Bon, Abu Basir, l'imam, qu'est-ce qu'il répond?
Est-ce que cela contentera un homme de vous qu'on regarde vers le postérieur?
Yannick, l'imam a répondu, toi qui regardes par exemple, est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un regarde pareil à tes filles, à tes enfants, à ta femme ou bien à ta soeur? Qui ta mère par exemple, ou bien à tes filles, pourquoi tu fais ça avec les femmes, les filles et les femmes des hommes par exemple? Regardons, Yannick, c'est tellement l'islam, c'est une religion qui est propre. L'islam, c'est une religion propre, il est prévu à tout. Et toujours le principe de la justice. Et toi, si tu n'es pas pour toi, mais je ne souhaite pas pour les autres. Non, lui, c'est un compagnon qui voulait nous apprendre, en fait. C'est pour ça qu'il a demandé ça, parce qu'il sait que Cheikh Nosal, il va passer son temps à regarder ce truc-là. Vas-y.
Souhaite pour ce que tu souhaites pour toi-même.
Vous voyez, il y en a souhaite pour les autres ce que toi tu souhaites pour toi-même. Ça, c'est parmi les signes de la croyance. Si c'est l'inverse, c'est un mécroyant. Vas-y.
Quand une des filles de la Meshaïb dit, ô père, embauche-le, Moussa.
Vous savez, Moussa, quand il a eu un problème, il a fui, il est tombé, il est allé dans un endroit, il y avait le puits, il a aidé la fille à prendre l'eau, en fait. Et après, la fille, elle voulait récompenser Nabi Moussa. Donc, elle a amené Nabi Moussa chez elle pour présenter à son père parce qu'elle a vu que celui-là, c'est un homme de Dieu. Elle a compris. Et comme elle sait aussi que son père, c'est un homme de Dieu, c'est pour le faire rencontrer un peu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutons bien.
Il est fort et digne de confiance.
Donc, la fille, elle dit à son père que celui-là, il est fort et digne de confiance. Bon, Nabi Shoaib, il a vu que Nabi Moussa, il était, on va dire, costaud. Là, il a compris. Parce qu'elle a dit qu'il a soulevé le rocher comme ça. Nabi Shoaib, il a compris qu'il est fort. Mais par contre, Nabi Shoaib, il a été étonné. Mais comment tu sais? Alors que tu l'as vu même pas, on va dire, c'est une heure, tu étais avec lui. Comment tu as su qu'il est digne de confiance? Écoutons bien la réponse.
Elle a répondu quand j'étais en train de marcher devant lui, pour lui montrer le chemin. Il m'a dit de marcher derrière lui.
Parce que la fille, elle était devant.
Il ne regarde pas les postérieurs des femmes.
Vous voyez, la fille, elle était devant, la fille, elle était derrière. Parce qu'elle connaît l'adresse. Donc, mais la fille, elle a dit non, mets-toi derrière. Mets-toi derrière et toi tu me diriges, en fait tu me dis à gauche, à droite, devant, parce que nous, les gens comme nous ne regardons jamais les postérieurs d'une femme. Nous devons toujours nous mettre devant et non pas derrière les femmes. Donc, voilà. Car nous sommes un peuple qui ne regarde pas les postérieurs des femmes. Vas-y.
Tous les yeux vont pleurer le jour du jugement, sauf trois groupes de yeux.
Il y a des gens qui vont pleurer le jour du jugement, pas pleurer pour l'amour de Dieu ou par la loi ou comme elle, c'est pas moi, pour Massaïb d'Imam Sénat, non, ils vont pleurer par rapport au regret, par rapport à tous les problèmes, malheurs qu'ils vont avoir, ils vont pleurer. Sauf trois personnes, trois groupes de personnes ne vont pas pleurer. Qui sont ces gens-là?
les yeux qui sont baissés devant les illicites.
Il y en a les yeux qui se sont abaissés devant les illicites, c'est-à-dire quand ils ont vu une femme, par exemple, ils ont baissé le regard. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe.
Les yeux qui ont fait des nuits blanches dans l'adoration de
Dieu. Ceux qui passent, par exemple, dans ma chambre, sur la toilette, ils font une nuit blanche, pas pour jouer PlayStation ou regarder Coupe du Monde ou, c'est pas moi, XXL ou, c'est pas moi, tout ce que vous voulez, mais ils font une nuit blanche pour l'adoration de Dieu. Ils font de dire, ils lisent le doigt, le Coran, tout ça. C'est le deuxième groupe des gens qui ne vont pas pleurer. Voici.
Et les yeux qui ont pleuré au milieu de la nuit par crainte d'Allah.
Et pareil, les yeux qui pleurent au milieu de la nuit parce qu'ils ont peur de Dieu. Vas-y.
Il a demandé à Imam Ali alayhi salam, quelle est la distance entre la vérité et le mensonge?
C'est quoi la distance entre la vérité et le mensonge? Imam, il a répondu quoi?
Il a répondu 4 doigts.
4 doigts. Vous voyez, ce doigt-là, c'est la différence entre la vérité et le mensonge. Il y a 4 doigts d'espace en fait. Après, qu'est-ce qu'il a fait, Imam?
Entre l'oreille et l'œil, lui, il a dit ce que t'es.
Il a mis sa main comme ça, ses doigts comme ça, regardons là. Combien d'espace il y a là?
4 doigts.
Et donc, Imam, il explique là, tout ce que tu vois, c'est en général la vérité, et tout ce que tu entends en général, c'est les mensonges. Le média mensonge, par exemple.
Ce que tes yeux ont vu est la vérité, et ce que tes oreilles ont entendu, la plupart est faux.
La plupart est faux. Imam, il n'a pas dit tout est faux, la plupart est faux.
Le droit des mains. Le droit de témoin est ce que.
Bon, ça, on va passer un peu, grosso modo, droit de tes mains, et que tu ne l'étendes pas vers ce qui n'était pas ici. Tu ne fais pas des choses avant avec, grosso modo, ça, vous allez lire, Inch'Allah. Pareil, le droit de pied, pareil, tu ne fais pas des choses avant avec, et tu l'amènes vers le mosquée et tout ça, c'est ça, finalement, le droit de tes pieds, vous allez lire, Inch'Allah. Tranquillement, le droit du ventre.
Le droit du ventre. Le droit de témoin, c'est que tu n'en fasses pas un récipient, ni pour un peu, ni pour beaucoup.
Tu ne le rends pas récipient alimentaire, finalement. Donc, il ne faut pas être un gourmand, quoi, finalement. Ni pour beaucoup, ni de ce qui est, mais surtout quand c'est illicite.
Et que tu lui donnes ce qui est illicite en gardant juste le milieu.
Tu dois garder le juste milieu quand tu manges. Donc, premièrement, tu évites l'illicite. Deuxièmement, tu gardes le juste milieu. C'est-à-dire, tu manges selon ce que tu as besoin et pas devenir gourmand ou un truc comme ça, vas-y.
Et ne le sort pas de la fortification vers la faiblesse et bassesse. Et garde son contrôle si tu as faim ou soif, car la satiété entraîne la fainéantise, rend paresseux et coûte toute action bonne et noble.
Vous voyez, quand tu passes ton temps à manger, à remplir ton ventre, après tu seras paresseux et tu n'auras plus envie de travailler, faire l'ibadat de Dieu, et ainsi de suite, quoi. Vas-y.
Il n'y a pas d'excès, car il, sallallahu alayhi wa sallam,
subhanahu wa ta'ala. Si c'est imam, on va dire alayhi salam. Si c'est rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si c'est SWT, il y a le subhanahu wa ta'ala.
Subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent des excès. Vous
voyez, quelqu'un, il mange, Dieu dit mangez, buvez, mais ne commettez pas d'excès. L'excès, c'est quoi? Des fois, on jette ça, on appelle ça excès israf. Et un autre excès, c'est manger plus qu'on a besoin. Ça aussi, c'est excès.
L'estomac est la maison de tous les maux et la diète est sa remède.
L'estomac, c'est en général. Concernant les maladies, c'est l'estomac en général, entre autres, les causes de maladies. Vous voyez, l'obésité, l'hypertension, je sais pas quoi, le diabète, tout ça, le cholestérol, c'est le ventre. Et donc, on a le hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'estomac, c'est source du mal, et si vous voulez traiter le mal, vous devez faire le régime, en fait. La diète, vas-y.
Celui qui diminue sa nourriture, son ventre devient sain et son cœur en bonne santé.
Vous voyez, quelqu'un qui diminue son alimentation, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui bouffe plus qu'il a besoin, qui ne s'égare pas de nourriture, son cœur et son ventre deviennent sains. Vas-y. Et celui qui augmente sa nourriture. Vas-y, celui qui augmente sa nourriture.
Celui qui augmente sa nourriture, son ventre tombe malade et son cœur devient dur.
Oui, ça c'est médicalement prouvé, ça. Le problème cardiaque, tout ça, c'est dû au problème alimentaire. Vas-y.
Celui qui a rempli son ventre n'aura pas accès au royaume des cieux et de la terre.
Voilà, regardons là. Si le mec il veut avoir l'accès au royaume du ciel et de la terre, c'est-à-dire les choses incroyables, les merveilles, tout ça, c'est-à-dire quelqu'un qui devient spirituel, il ne doit pas remplir son ventre.
Ne tuez pas vos cœurs par des excès alimentaires et excès aux boissons, car l'âme, car le cœur meurt comme la culture elle meurt, qui meurt par trop d'excès en haut.
Il y en a, si on met trop d'eau dans une plantation, ça meurt pareil. Il y en a le cœur, avec l'excès alimentaire, ça meurt aussi. Crise cardiaque peut-être derrière après. Vas-y. Réfléchissez à ce verset, on va finir aujourd'hui, à ce hadith, réfléchissez là-dessus. Là.
Écoutez bien. Daoud, certes, j'ai placé 5 choses sur 5, mais les gens ne les cherchent dans les 5 autres.
Par exemple, en grosso modo, c'est quoi? Dieu, il a mis 5 choses, par exemple, dans boîte 1, 2, 3, 4, 5. Boîte numéro 1, boîte numéro 2, il a mis ces 5 choses-là dans les boîtes 1 à 5. Mais nous les cherchons dans les boîtes 6 à 10. Est-ce qu'on va le retrouver?
Non.
Non, c'est grosso modo, c'est ça. Vas-y.
Donc ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. J'ai mis le savoir dans la faim et l'effort, mais ils cherchent dans la satiété et le confort.
Donc, oui, donc Dieu il dit, si vous voulez le savoir, je l'ai mis dans la faim, c'est-à-dire vous ne devez pas. Il y en a, vous devez subir la faim. Et vous devez faire des efforts, parce que quelqu'un dort, il ne va pas devenir un docteur. Vous êtes d'accord, monsieur docteur ou non? Il y en a, quelqu'un qui passe son temps à dormir, il va pas être un docteur, ça c'est sûr. Oui. Si quelqu'un passe son temps à aller dans McDo tous les jours pour bouffer, il ne va pas être docteur aussi. Vous êtes d'accord? Moi, je connais une histoire, là, un ingénieur, là. Je ne sais pas c'était qui là, à l'époque. Le mec, il était tellement dans son histoire, dans ses inventions, il calculait que sa femme est venue donner le petit déjeuner. Il a dit, oui, je vais manger. La femme, elle a laissé le petit déjeuner, elle est partie. Après, elle est revenue pour donner le déjeuner. Elle a vu que le petit déjeuner n'a pas été mangé. Le mec, il était tellement dans son truc qu'il a oublié le petit déjeuner. Là. C'est-à-dire, il était en état de faim. Et la femme, elle a laissé le déjeuner aussi, là. Il a dit, bon, il est occupé, il va manger plus tard. Il a dit, je vais manger plus tard. La femme, elle part, elle revient avec le dîner, elle se rend compte que non seulement le petit déjeuner est toujours là, le déjeuner, et le mec, finalement, il n'a rien mangé. Il était tellement dans son calcul, mathématiques, tout ça, vous voyez, c'est ça en fait. S'il n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas eu les avions, internet, tout ça. Donc, Dieu l'a mis, le savoir dans la faim et l'effort, et donc, nous les cherchons dans la satiété et la paresse, donc, nous n'allons pas trouver cette chose-là. Après,
j'ai mis la gloire dans mon obéissance, mais il cherche le service de celui qui a le pouvoir, donc ils ne trouveront pas.
Si nous voulons la gloire et nous voulons la gloire et la puissance, c'est dans l'adoration de Dieu, mais nous cherchons cette gloire ailleurs et nous n'allons pas trouver là. Vas-y.
J'ai mis la richesse dans le fait de se contenter du peu.
La richesse, si nous voulons être riches, Dieu l'a mis dans quoi? Dans le canard. Le canard, ça veut dire se contenter du peu. Mais les gens, ils cherchent dans quoi?
L'argent,
il y en a le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ils pensent que le fait d'avoir beaucoup d'argent, je vais être riche. Non, Dieu il a dit, j'ai mis la richesse dans le canard, c'est-à-dire le fait de se contenter du peu. Ça, c'est parmi les signes de la croyance aussi, de se contenter du peu. Mais regardons, est-ce que nous nous contentons du peu? Supposons par exemple, j'en ai vu plusieurs fois dans le cantine, là où on mange, dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, je me contente pas de ce qu'il y a finalement. Et ça, c'est des gars qui font ça, ce n'est pas des gars qui sont... On doit. Voyons, c'est quoi la différence entre. Yala, s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre moi et ces gens-là qui mangent des pots de banane dans les dépotoirs parce qu'ils n'ont rien à manger? C'est quoi la différence? Il n'y a rien. C'est un être humain, moi c'est un être humain, je peux être aussi mon veut. Peut-être ces gens-là, ils sont arrivés à ce cas-là parce qu'ils n'ont pas fait le remerciement de Dieu, ils n'ont pas fait le choukr. Nous devons faire choukr. Alhamdoulilah que Dieu m'a donné ça, là. Que ce soit du mouton, ou ça soit du poulet, ou ça soit du bœuf, ou je sais pas quoi. L'essentiel que ce soit là, que je dois dire Alhamdoulilah. Oui. Au lieu de. C'est pas comme les juifs, vous savez, les juifs, c'est quoi l'histoire, là? Dieu les a fait envoyer un truc spécial du ciel, la manne et la caille. Et ils ont dit, oh, on est fatigué de manger ça, là, on veut du concombre, on veut du. C'est pas oignon, on veut je sais pas quoi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez changer quelque chose de meilleur par quelque chose qui n'est pas meilleur? Dieu il est énervé à cause de leur comportement. Parce que Dieu, il a fait un truc pour eux. C'est Dieu en personne qui les a envoyés. Il y en a Dieu quand il te donne quelque chose, tu vas dire, c'est pas bon ça?
C'est pas bon. C'est juste.
Et donc, nous devons dire remerciement dans toute situation et contenter de ce qu'il y a. Et dire Alhamdulillah parce qu'on aurait pu manger le pot de banane. Juste pour, comme on est presque à la fin, l'histoire de Comte de Saba. Reine de Saba, vous avez entendu?
Oui.
Les gens, ils étaient tellement devenus riches et orgueilleux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient, comment là, ils nettoyaient les fesses de bébé avec du rotli, là.
Ouais,
rotli. Ouais, le kobz, là. Rotli. Ils allaient nettoyer ça et le jeter. Tellement ils étaient devenus orgueilleux, ces gens-là. Ils ont jeté comme ça, ils ont jeté, c'est devenu une sorte de montagne, finalement. Après, ils ont subi la colère de Dieu. Toute leur richesse est partie, ils avaient des fleuves, c'est pas quoi, tout ce qu'ils avaient, quoi, ils avaient le paradis. Dieu, il dit dans le Coran, ils avaient deux paradis. C'est-à-dire, ils avaient tout ce qu'il fallait, tout ça. Mais ça a changé, en inverse, ils ont tout perdu, ils n'avaient plus rien à manger. Ils sont arrivés à un moment où ils n'avaient plus rien à manger. C'est la diète, c'est comment on appelle ça, la famine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à manger leur saloperie là. C'est-à-dire le rôti bien tartiné. Donc quelqu'un est désobéi à Allah, qu'il ne fait pas chaud, il peut suffire ce genre de choses. On est tous comme ça. Faites attention, au moins, faisons choukr à Allah qu'il m'a donné quand même du riz aujourd'hui, du pain, un truc à Allah que j'ai mangé à l'homme de l'eau. Je dois tout ce qu'il y a, parce qu'il y a des gens, ils n'ont même pas ça. Vous voyez, il y a des gens, j'en ai vu dans ma vie. Il y en a, tout ça pour eux, c'est du, comment on appelle ça, là, c'est du luxe. Vous voyez, par exemple, il y a des pays, moi j'en ai vu de mes propres yeux, ils ramassent dans des potoirs, des pots de bananes, ils essaient de manger ça. Et Dieu dit, et si vous remerciez Allah, il va vous augmenter. Mais si vous êtes ingrat, Dieu il est riche. Et il y a un autre verset qui dit que sa punition est terrible. Vas-y, continue. J'ai mis la richesse dans le fait de se contenter du peu. Mon contentement. Si nous voulons le contentement, les rezaïettes de Dieu, il a mis dans l'indignation, mais il le cherche dans l'autosatisfaction.
J'ai mis le repos et la tranquillité au paradis, mais il cherche sur la terre, donc il ne le trouve pas.
Ça, c'est très important. Nous, tout ce que nous faisons, finalement, pour avoir quoi, le repos sur cette terre. Mais Dieu l'a dit, j'ai mis le repos dans l'au-delà. Et du coup, personne ne va trouver le repos sur cette terre. Où est-ce qu'il y a le repos sur cette terre? Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. C'est pour ça que les gens se suicident, parce qu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas la tranquillité, le repos. Que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, quand vous allez en Irak, c'est la guerre, c'est problème d'électricité, c'est problème de je ne sais pas quoi. Vous allez aux États-Unis, c'est le problème de flics qui tuent, par exemple, les jeunes.
Le noir.
Vous voyez, le noir. Quand vous allez en France, c'est le racaille qui casse tout. Vous voyez,
le noir.